Bien bonjour. Alors il y en a que j'ai déjà vu ce week-end, hein, puisque je suis là depuis vendredi. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. En fait, je connais un petit peu votre église. Hein. On a eu l'occasion de faire des soirées Pulse à Nancy, deux fois Bouge ta ville. Et puis j'ai retrouvé des visages de PlayStation de la grande époque. Et puis effectivement des visages plus récents avec Guillaume, que je connais depuis quelques années, avec qui on travaille à JPC. Et ce matin, je vais vous partager quelque chose qui est un petit peu la suite de ce qu'on voit depuis hier. On a beaucoup parlé de l'annonce de l'Évangile, de la mission. On a surtout parlé de la mission et la place de l'annonce de l'Évangile. Et aujourd'hui, on va parler de l'amour en lien avec la mission. Alors, je vous dis tout de suite, on ne va pas voir tout ce qui concerne l'amour. Il nous faudrait des semaines pour ça. On va vraiment se concentrer sur l'amour en lien avec la mission. Alors, je vous fais quand même un petit résumé de ce qu'on a vu. Je vais me déplacer un peu. De ce qu'on a vu. Ça va, là? Vous m'entendez bien avec le micro? Oui. De ce qu'on a vu hier, et je crois qu'il y a les enregistrements, ouais, si jamais ça vous intéresse. On a vu beaucoup de choses en termes d'annonce de l'Évangile et de mission. Et on avait deux passages bibliques essentiels. Guillaume nous a lu le premier ce matin, en Matthieu 28, quand Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et il conclut en disant, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je disais que si on a l'habitude de lire ce passage, en général quand on est un chrétien évangélique, on connaît ce passage assez bien, on peut avoir parfois tendance à oublier que quand Jésus a dit allez, ce n'était pas une option, ce n'était pas une proposition, mais un ordre donné à chacun d'entre nous. Alors cet ordre, heureusement, il est encadré par deux phrases très fortes de Jésus. Je suis le plus fort du monde, c'est ça quand il dit j'ai reçu toute autorité, même plus que le monde, pardon. Il n'y a pas plus puissant que moi, c'est moi le big boss. Je vous envoie et le big boss est avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et c'est rassurant. Et le deuxième passage qu'on a vu un peu plus en détail aussi hier, c'est Actes 1:8, au moment où Jésus va envoyer ses disciples, il leur dit « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. » Nous rappelons que si nous sommes envoyés quand Jésus dit « Allez », nous sommes aussi accompagnés. Comme Jésus leur dit « Attendez, partez pas trop vite, tant que le Saint-Esprit ne sera pas venu, vous ne pourrez pas le faire. Mais quand il sera là, ce sera une puissance qui nous permet d'être ses témoins. Et il nous rappelle d'être que ses témoins. Et on l'a vu un peu en détail hier. Nous ne sommes pas des avocats de Jésus. Nous sommes ses témoins. Et on en parlera un peu plus en détail aussi cet après-midi avec le témoignage. Du coup, quand on réfléchit à cet ordre de mission, aller faire des disciples, être des témoins, il est question de répondre à cette mission. Et du coup, vous y avez tous répondu, parce que je vous ai écouté chanter. Me voici, envoie-moi, fais ce que tu veux de moi. C'est un chant dangereux, ça. Imaginez Jésus, il apparaît, il dit, ok, alors je vais vous dire ce que j'attends de vous. On le sait, hein, on l'a dans sa parole, mais du coup, il est question de répondre à cet ordre de mission. Et quand Jésus l'a donné, il n'a pas dit, bon, dans l'église, il y aura deux catégories. D'un côté les chrétiens, et de l'autre, les disciples en mission. Il a dit, il n'y aura que des disciples, et par définition, en mission. Être en mission, c'est aller, c'est annoncer l'évangile, pour ensuite faire des disciples et les accompagner. Et on l'a vu, c'est quelque chose qui peut souvent nous mettre la pression. Quand on se dit, oh, Jésus me dit, à moi, va, annonce et forme. Je dis, ouais, il y en a dans l'église, je pense, eux, ils pourraient. Mais moi, c'est peut-être pas mon boulot. Et en fait, on peut parfois se mettre une certaine pression qui peut être une mauvaise pression. Parce que peut-être on se trompe sur ce que veut dire aller. Et surtout, la manière dont on doit le faire. Je vous lis les commentaires d'un évangéliste, Michael Green, qui a écrit un livre qui s'appelle L'évangélisation dans l'Église primitive. À moins d'avoir une transformation de l'Église contemporaine, pour qu'à nouveau la tâche de l'évangélisation soit perçue comme normale dans la vie de chaque chrétien, nous n'arriverons pas à progresser malgré nos techniques d'évangélisation. Les gens ne croiront pas que les chrétiens ont une bonne nouvelle à partager tant qu'ils ne verront pas que les pasteurs et les boulangers, les professeurs et les mères au foyer, les chauffeurs de bus et les évangélistes sont tous passionnés pour partager l'évangile malgré leurs méthodes différentes. Ces gens continueront à croire que l'Église est une société introvertie, composée de personnes respectables, dédiées à leur propre survie, à moins qu'ils voient dans le culte et chez les chrétiens l'attention, la joie, la communion, le sacrifice personnel et l'ouverture qui caractérisaient les chrétiens de l'Église primitive. Ici, en fait, quand j'ai lu ce morceau de livre, je me suis dit, on n'est pas dans une technique d'évangélisation. Vous savez, Guillaume, on est à JPC, on réfléchit beaucoup à JPC. Comment on fait? C'est quoi la meilleure manière? On a des gens qui sont spécialisés pour réfléchir à comment on parle aux jeunes. On parle beaucoup de techniques. Mais ici, lui, il parle d'un mode de vie tourné vers les autres. Et si on aborde la question du mode de vie, de l'attitude qu'on doit avoir, en fait, Michael Green, il n'a rien inventé. Le premier à en avoir parlé, c'est Jésus. Alors, même si Jésus a dit « Allez », il a envoyé. Avant d'envoyer, il a aussi dit « Comment être quand vous allez ?» Je vous lis Matthieu 5, les versets 13 à 16. Je vous en lis juste une petite partie. Jésus dit « Ce que le sel est pour les aliments, vous l'êtes, vous, pour cette terre. » Un peu plus loin, « Vous êtes la lumière de ce monde. » Lumière que l'on place le plus haut possible pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière devra briller aux yeux de tous pour que ceux qui vous côtoient remarquent le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. Alors juste déjà, si Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde », ça veut dire qu'on doit être dans ce monde, qu'on doit être au cœur de ce monde. Donc, connecté à des non-croyants. Et je crois que c'est important de le préciser, parce que parfois on est tellement bien entre chrétiens qu'on se coupe petit à petit du monde. J'ai lu une étude qui dit que plus les chrétiens avancent en âge, et moins ils sont en relation avec des non-chrétiens. Je ne sais pas si c'est vrai dans votre église, mais il y a une étude qui dit ça. Du coup, est-ce qu'on a des amis chrétiens ? Qu'on invite parfois à manger, ou chez qui on va manger. Est-ce qu'on a des amis non chrétiens avec qui on fait du sport ou d'autres activités? Vous savez, parfois certains ont eu l'impression qu'un enseignement a encouragé les chrétiens à se couper du monde pour être plus sains. Mais Jésus, ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Dans Jean 17, qu'on a vu hier, dans Jean 17, il dit au sujet de ses disciples, « Ils sont dans le monde. » Verset 11, verset 14, mais, vous connaissez la suite, ils ne sont pas du monde. Et Jésus demande clairement à son Père, verset 15, je ne te demande pas de les retirer du monde. Pardon, il dit, ils sont dans le monde, mais ils n'en font pas partie, mais laisse-les. On pourrait dire que c'est bizarre s'ils n'en font pas partie, mais de les préserver du mal. Donc si nous sommes dans le monde, je pense qu'on en est conscient, c'est bien la volonté de Jésus. Et si nous sommes le sel de la terre, comme il le dit au début du passage, mais que tout le sel est rassemblé dans la salière, il ne donnera pas du goût à grand-chose. Il aura toute son efficacité, mais qui servira à rien. Donc notre préoccupation doit être, d'être en contact avec le monde pour un jour avoir l'occasion de briller et de donner du goût, c'est-à-dire de transmettre la bonne nouvelle. Et je reprends la fin du passage de Matthieu 5, le verset 16, où Jésus dit « C'est ainsi que votre lumière devra briller aux yeux de tous, pour que ceux qui vous côtoient remarquent le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. » Là, Jésus ne dit pas « Allez annoncer, proclamer l'Évangile. » Jésus est clair, il dit « Quand vous allez faire du bien, les gens vont le remarquer et ils vont attribuer la gloire à Dieu. » Mais encore une fois, je me suis dit, ça ne paraît pas une technique super pertinente pour que les gens rendent gloire à Dieu. Mais si Jésus le dit,
c'est le bien que l'on fait qui permettra que les gens rendent gloire à Dieu. Et dans un autre passage, Jean 13, 35, il va jusqu'à dire « La marque par laquelle tous les hommes pourront reconnaître si vous êtes mes vrais disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Jésus dit clairement, on le partageait hier, hein, « Vous voulez que les gens me connaissent, qui savent que je suis votre maître, que vous êtes mes disciples ?» Ben, c'est facile, aimez-vous. Aimez-vous, et ça suffira. Alors moi qui suis à JPC, j'ai envie de dire, dis-nous qu'il faut faire des trucs aussi, qu'on mette en place des... Aimez-vous, et ça suffira. Et je crois que si on réalise ça, ben, on devrait vraiment imaginer l'évangélisation autrement, parce que Jésus ici ne dit pas « allez annoncer et proclamer », même si, on va le voir, il faut le faire, hein, mais il demande de faire du bien pour vivre l'évangile et le démontrer. La preuve, tous sauront que vous êtes mes disciples. L'amour est donc une démonstration qui va sensibiliser, qui va préparer le terrain et qui va ensuite démontrer une réalité de vie changée qui va permettre ensuite que l'évangile puisse être mieux accueilli et expliquera cet amour. Ça doit être un témoignage visible et naturel du disciple. En 2 Corinthiens 3, les versets 2 à 3, Paul dit à une église, à l'église de Corinthe, « Vous êtes une lettre de Christ, lettre connue et lue, encore une fois, de tous les hommes. » Donc, plus que des messagers, nous sommes le message. Paul leur dit, « Vous êtes la lettre. » On est des messagers, mais on est aussi le message. Nous sommes lus et connus en tant que lettre de Christ au monde. Et donc, si on est lu, ben on est lu au travers de ce qu'on fait. De ce qu'on fait entre nous, mais aussi de ce qu'on fait vis-à-vis du monde. Ainsi, répondre à la mission, faire des disciples, comme on en parle depuis hier, ça passe aussi par le fait de faire du bien et aimer. Et Jésus dit que ça va convaincre tous les hommes qui vont glorifier Dieu et nous reconnaître en tant que disciples de Jésus, donc forcément, vont reconnaître Jésus. D'ailleurs, Jésus, dans une parabole qui peut être assez perturbante, hein, il raconte comment un jour il va faire le tri entre ceux qui gardent avec lui et ceux qu'il va jeter à l'extérieur. C'est dans Matthieu 25, je vous lis les versets 31 à 36, et je vous propose juste d'essayer d'imaginer ce que je lis. Imaginez la scène, parce qu'elle sera sûrement assez grandiose. Si vous voulez fermer les yeux, vous concentrer. Quand le Fils de l'homme reviendra dans la gloire, escorté de tous ses anges, il prendra place sur son trône de gloire. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les partagera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. » Je crois qu'on attend d'entendre cette phrase, « Venez, prenez possession. » Jésus continue, « En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » À ceux que Jésus accueille, il ne leur dit pas « Vous avez prêché, vous alliez à l'église, vous avez donné des paroles de connaissance, vous avez fait des camps d'évangélisation. » Il reconnaît juste leurs actes d'amour. Et ces gens à qui Jésus dit ça, lui répondent dans le passage, alors excusez-moi, je le dis avec mes mots, merci pour ces compliments Jésus, mais quand c'est qu'on t'a fait ça à toi? Tu dis que c'est à toi qu'on l'a fait. Là, il y a tous les peuples de la terre, il y a toute l'histoire humaine, il y en a plein qui n'ont jamais connu Jésus vivant. Et le roi leur répondra, verset 40, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Jésus ne dit pas « faire du bien à quelqu'un, c'est comme le faire à moi ». Il ne dit pas « comme ». Il dit « c'est à moi que vous l'avez fait. Autrement dit, Jésus dit, c'est simple. Aimez, faites du bien là où il y a des besoins, et c'est à moi que vous le faites. Du coup, je me dis, mais est-ce qu'on a envie de faire du bien à Jésus? Ben, on a une très bonne manière de le faire, parce qu'on a la chance et l'opportunité, au travers des malheureux et des besoins qui nous entourent, de pouvoir prouver concrètement notre amour pour Jésus. On en est sûr, c'est lui qui l'a dit. De faire des choses qui le touchent directement, tout en faisant bien sûr aussi du bien à ceux qui en ont besoin. Je ne sais pas si vous aviez déjà réalisé ça, que quand on le fait, c'est à lui qu'on le fait. Et ça va peut-être changer notre regard sur les SDF, sur les migrants, sur les gens dans le besoin. Et je vous propose de regarder une petite vidéo, qui n'est pas une vidéo chrétienne, qui reprend juste des petits gestes de la vie quotidienne. Je suis sûr que ça va pouvoir nous donner plein d'idées, parce que parfois avec l'amour on se dit, oui mais qu'est-ce que je pourrais faire? Une petite vidéo de la vie quotidienne qui nous montre plein de petits exemples.
Sometimes I live under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity is around, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for. Sometimes in my tears I drown.
La boucle est bouclée, hein? On est revenu au gars du début. Et je suis sûr que ces petits exemples de la vie, si vous les cherchez, moi je suis sûr qu'aujourd'hui ou demain, vous allez trouver une occasion. Bien sûr, encore une fois, il faut qu'on soit intentionnel et se dire à qui je vais rendre service, qui je vais aimer, à qui je vais faire du bien. Et certainement qu'on doit se concentrer sur les plus nécessiteux, ceux qui ont le plus de besoins. Je reviens à la parabole de Jésus, Matthieu 25, le roi qui a accueilli ceux qui font du bien, qui font ce genre de gestes. Il va ensuite s'adresser à l'autre partie, ceux qui sont à sa gauche, les boucs. Je ne vous lis pas le texte, mais en résumé, eux n'ont pas fait les bonnes actions envers les nécessiteux et les malheureux. Et Jésus va leur dire, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait, de la même manière que les autres, et il va les rejeter. Verset 41, éloignez-vous, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ce sera moins drôle à entendre, ça. Et c'est sans détour. Et en fait, pour le roi, il n'y a que deux sentences possibles. La première, c'est venez, bienvenue, pour les uns. Et les autres, c'est éloignez-vous. Mais les deux sont expliqués par en effet. Venez. En effet, vous avez fait. Partez, en effet, vous n'avez pas fait. Alors, c'est vrai que si le sort de chacun d'entre nous dépend absolument de la foi, Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, ce n'est pas par les œuvres. Ça, c'est très clair. Mais la preuve d'une foi vivante réside dans les actes. Et ici, quand Jésus accueille ces gens, ce sont les actes d'amour qui désignent ceux en qui la foi, seul moyen du salut, a été opérante. Martin Luther King le dit de cette manière, Martin Luther dit, la foi qui sauve n'est jamais seule. Et la Bible le dit clairement, Jacques 2:26, la foi sans les œuvres est morte. Et une foi morte, elle ne pourra pas nous amener bien loin. Du coup, vous savez, en tant que disciple de Jésus, on peut assister à toutes les rencontres de notre Église, on peut lire la Bible en entier tous les ans, prier 3 fois par jour, faire des campagnes d'évangélisation, mais si on ne fait pas preuve d'amour envers les autres, envers tous les autres, selon Jésus, on ne se comporte pas encore comme un disciple de Jésus. Lui qui a dit, Luc 6, 27-28, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous témoignent de la haine, invoquez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent, vous pensez à quelqu'un, intercédez pour ceux qui vous calomnient méchamment. Alors je vous confirme en le disant, je réalise que moi aussi je dois apprendre à mieux aimer. Vous savez, les apôtres, ils ont beaucoup insisté sur cette notion d'amour indispensable. Jacques 1:27, la religion authentique et irréprochable aux yeux de Dieu. C'est d'ailleurs, est-ce que quelqu'un veut vivre une religion authentique et irréprochable aux yeux de Dieu? Vous avez le droit de lever la main si vous avez envie de vivre ça. Je vous donnerai ensuite la recette. Bon, vous êtes deux. C'est un bon début. La religion authentique et irréprochable aux yeux de Dieu, notre Père, consiste à aider les orphelins et les veuves lorsqu'ils passent par l'épreuve, et il rajoute, et à se garder soi-même sans tache en se préservant de l'influence corruptrice du monde. Donc oui, à la sanctification, mais la première chose qu'il dit, c'est de s'occuper de ceux qui ont des besoins. Et Paul, lui, le dit d'une autre manière, Galates 5,14, en effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Alors juste avant de vous le lire, parfois les jeunes dans les camps à JPC disent « Oh, la Bible, c'est un gros truc. » Effectivement,
L'Ancien Testament, c'est un gros pavé. Je dis, écoute, tu veux te passer de lire tout l'Ancien Testament, pardon ? On a dans la Bible un résumé. Il faut le respecter. Hein. Toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de dire à un jeune, tu n'es pas obligé de dire l'Ancien Testament si tu accomplis ça parfaitement. Mais toute la loi est résumée là-dedans. Et si un jeune, sa préoccupation, c'est d'aimer son prochain comme lui-même, on sait qu'il fera ce que Dieu attend de lui. Du coup, on a peut-être besoin d'analyser nos attitudes vis-à-vis de nos voisins, de nos collègues au travail ou à la fac, les gens qu'on croise au quotidien, nos amis, nos relations, notre famille, sans oublier nos frères et sœurs en Christ. On parlait hier de l'unité, hein. Parce que le monde dans lequel on vit a d'abord besoin de démonstrations avant d'avoir des sermons. Alors en même temps, je ne veux pas vous dire que faire du bien nous dispensera d'annoncer la bonne nouvelle. Pas du tout, hein. L'amour qu'on aura pour les gens ne les sauvera jamais. Personne ne pourra arriver au ciel en disant « J'ai le droit d'entrer. Il y a un chrétien de l'église de Vendeuvre qui m'a aimé. J'ai le droit d'entrer. » Ah ben non, ça ne suffit pas. Mais l'amour, par contre, va les conduire à avoir une oreille attentive à l'écoute de l'Évangile qui seul les conduira au salut. Parce que l'annonce, la prédication de l'Évangile, on le voyait aussi hier, est indispensable. Paul le dit, 1 Corinthiens 1:21, « Puisqu'à travers sa propre sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, donc autrement dit, on a tout sous les yeux pour croire en Dieu, mais ça ne suffit pas, ça ne nous suffit pas, il a plu à Dieu par la folie de la prédication de sauver ceux qui croient. » Donc le salut passe par la prédication. Elle est nécessaire pour croire et être sauvé. Paul dira aussi à une autre église, aux Éphésiens, chapitre 6, verset 15, « Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. » Comme si c'était un truc à dégainer. À qui je vais transmettre aujourd'hui la bonne nouvelle? Du coup, il faut peut-être avoir des cartouches sur soi. Et on parlera tout à l'heure d'un petit outil qui nous sera utile. Et Jésus, d'ailleurs, quand il a envoyé ses disciples, Luc 9, verset 2, il associe les deux dimensions. Il les envoya annoncer le royaume de Dieu, donc proclamer la bonne nouvelle, et guérir les malades, faire du bien. Il leur a demandé de faire les deux. Et c'est un équilibre qu'on doit chercher. Et d'abord parce qu'aimer, faire du bien, ben honnêtement, c'est plus facile qu'annoncer l'Évangile. C'est plus facile que de dire aux gens, j'ai un truc à te dire, de prendre du temps avec eux. Offrir un sandwich à SDF, ben c'est 3,50 €. Aider une mamie à porter ses courses, c'est quelques minutes de mon temps. Visiter un malade à l'hôpital, encore une fois, c'est un peu de temps. Et puis ensuite, c'est montrer à l'autre que je m'intéresse à lui, à sa personne, à ses besoins. Et encore une fois, ça c'est une technique de Jésus. Il faisait comme ça, et ça marchait. Jésus, en Luc 19, verset 9, il dit au sujet d'un homme, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » C'est au sujet de Zachée, qui vient de se repentir, qui vient de décider de changer de vie pour suivre Jésus. Mais si vous lisez l'histoire de Zachée, dans cette histoire, on ne voit pas que Jésus lui parle de ses péchés. On ne voit pas qu'il lui présente les 4 points pour connaître l'Évangile, comme on le fait avec les outils d'Agapé. Il ne lui demande pas « Reconnais-moi comme Seigneur et Sauveur ». Alors, évidemment, on le voit dans le texte. Zachée a compris qui est Jésus. Il a compris son état. Il se repent, sa vie a changé, il le démontre tout de suite, il le déclare, hein. Il va donner aux pauvres, il va rembourser l'argent qu'il a extorqué. On voit qu'il a assimilé l'Évangile. Mais pour ça, Jésus n'a pas fait grand-chose. Il passe et Zachée est dans un arbre et Jésus lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Autrement dit, j'ai envie de passer du temps avec toi. Tu m'intéresses, alors juste, je ne sais pas si vous connaissez le contexte, hein, Jésus est en route pour son dernier voyage à Jérusalem. Là-bas, les pharisiens l'attendent, ils vont l'arrêter et bientôt le crucifier. Et il a dit à ses disciples, les gars, on y va, c'est le dernier trajet. Et alors qu'il est dans ce cadre-là, Jésus s'arrête, il dit, attendez, je dois aimer quelqu'un d'abord. Même s'il a aimé tout le monde, mais là, il devait montrer de l'attention avec Zachée. Et ça marche. Ça touche le cœur de Zachée, ça change sa vie, même si juste aimer ne marchera pas toujours. Il y a un autre homme à qui Jésus s'est intéressé un jour, Marc 10, les versets 17 à 22, c'est celui qu'on appelle le jeune homme riche. Jésus a discuté avec lui. Jésus lui a donné le conseil essentiel pour changer de vie et être sauvé. Et il y a tout livré sur un plateau. Et on lit même au verset 21, « L'ayant regardé, Jésus l'aima. » C'est-à-dire qu'il a cet homme devant lui, et Jésus dit, ah, « Lui, je l'aime. » Et je lui donne tout ce dont il a besoin pour être sauvé. Donc Jésus s'est intéressé à lui, il l'a conseillé, il a aimé. Pourtant, cet homme est reparti tout triste, parce qu'il avait fait son propre choix. Donc l'amour que Jésus a témoigné, bah, ça n'a pas permis que cet homme s'en saisisse. Donc ça ne veut pas dire que juste l'amour sera suffisant. Mais comme Jésus, quand j'ai commencé à aimer, à créer une relation, je peux ensuite expliquer que c'est l'amour de Dieu, la bonne nouvelle dans ma vie qui me pousse à aimer. Et là, certainement que le meilleur moyen d'expliquer ça, c'est notre témoignage. Alors je fais un petit teaser pour cet après-midi, hein. On aura un temps sur le témoignage, sur comment le préparer, on fera un petit exercice. Mais je vous encourage vraiment à utiliser votre témoignage pour présenter l'Évangile et bien sûr à rester cet après-midi si vous voulez en entendre parler. Du coup, c'est en vivant l'Évangile, en aimant les gens, que je pourrai alors annoncer l'Évangile et accompagner les gens vers le salut et répondre à la mission de Jésus. C'est ce que fait, par exemple, la Croix Bleue. C'est une grande organisation mondiale qui aide les personnes qui ont des difficultés avec l'alcool et qui a été fondée par un pasteur. Lui, il s'est dit, je veux d'abord m'occuper de ces gens et de leur détresse. Beaucoup de personnes sont passées par la Croix Bleue, et ceux qui ont assisté aux rencontres organisées par la Croix Bleue témoignent des années après, on a recueilli leurs témoignages, et ils disent, franchement, je ne me souviens pas du tout des prédications. Premier message, il parlait d'un Jésus, mais je ne me souviens pas. Par contre, ils disent se souvenir de l'ambiance chaleureuse et de l'amour qui régnait. Ils n'ont pas été jugés, mais accueillis, épaulés, écoutés et encouragés. Ils ont été émus par la démonstration d'amour avant d'être rendus attentifs à la proclamation de l'Évangile. Encore une fois, le monde dans lequel on vit a besoin de démonstrations pour écouter, accepter la prédication. Et l'amour est prioritaire. Paul va le développer largement, j'imagine que vous connaissez le chapitre 13 de 1 Corinthiens, je vous fais juste un petit résumé de ce que Paul dit au début. Même si j'étais au top dans la pratique des dons spirituels, dans la connaissance profonde et parfaite de Dieu, dans la foi et dans les œuvres, donc là j'ai l'impression qu'il n'y a rien au-dessus, si je n'ai pas l'amour, je fais illusion, je ne suis rien, tout cela ne me sert à rien. Et le tout cela, je vous le relis, c'est être au top dans la pratique des dons spirituels, dans la connaissance profonde et parfaite de Dieu, dans la foi et dans les œuvres. Tout cela ne me sert à rien si je n'aime pas. Et Jean, le disciple que Jésus aimait, le dit en 1 Jean 4,8, qui n'aime pas n'a rien compris de Dieu, car Dieu est amour. Il fait mal ce verset, hein ? Parce que parfois on se dit, oui, il y a quand même des gens que je n'aime pas. Jean dit, qui n'aime pas n'a rien compris de Dieu, car Dieu est amour. Et quand on aime, quand on va aimer les autres, cela va attirer l'attention de Dieu. On le voit dans un passage dans Acte 10, il y a un ange qui visite Corneille, qui est un homme, la Bible nous dit qu'il priait beaucoup et qu'il s'occupait des pauvres. Il faisait ces deux choses. Et l'ange lui dit, tes prières et tes largesses en faveur des pauvres ont été remarquées par Dieu. Et cela lui a été agréable. Ainsi, il est intervenu en ta faveur. Donc quand on obéit à Dieu, et bien sûr quand on prie aussi, Dieu ne nous oublie pas. Il lui dit, je réponds à ce que tu as demandé. Mais ce que je trouve le plus impressionnant, c'est que quand on agit avec bonté, Comme le dit l'ange, Dieu nous remarque. Et ça lui est agréable. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Hein. Est-ce que Dieu tape sur l'épaule d'un ange ou de Jésus en disant « Waouh, t'as vu ce qu'ils ont fait à Espérance aujourd'hui ? T'as vu comme ils ont aimé ?» Mais enfin, ça ne se passe peut-être pas comme ça, mais Dieu nous remarque et ça, ça lui est agréable. Alors, peut-être qu'on a aussi besoin de prier pour que Dieu transforme nos cœurs afin qu'on puisse plus aimer, qu'il nous donne les occasions aussi de transmettre l'Évangile. Mais d'abord, commençons par prier pour aimer en acte et faire des choses remarquées par Dieu. Martin Luther, et je rajoute pas King, a dit un jour, « Dieu n'a pas besoin de vos bonnes œuvres, mais votre voisin, si. » C'est à nous d'aimer les gens, et ensuite, c'est à Dieu de les changer. Donc n'essayons pas de faire ce que seul Dieu est capable de faire. Contentons-nous d'obéir dans l'amour. Et dans le cadre de la mission donnée par Jésus, on peut peut-être se poser quelques questions. Dois-je apprendre à mieux aimer mes voisins? Dois-je commencer à prier pour mes ennemis ou pour des gens qui ne m'aiment pas ou que je n'aime pas? Quel membre de mon église ai-je négligé? Quel malheureux autour de moi je vais pouvoir aider? On doit faire preuve de compassion afin de toucher le cœur de ceux que nous approchons. Et l'amour que nous témoignons va refléter l'amour de Dieu envers les hommes. Et puis ensuite, on va accompagner ces preuves d'amour et de compassion du témoignage de notre foi. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et l'amour pour les autres, c'est loin d'être une option dans le plan de Dieu. On l'a entendu tout à l'heure, c'est le premier commandement, aime Dieu et aime ton prochain. Et puis Paul dira en Éphésiens 2:10, Dieu nous a créés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la fille conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Autrement dit, on n'a même pas à se dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Dieu a déjà préparé des bonnes œuvres pour qu'on y rentre dedans. Ça, c'est son projet. Et Paul dit en Galates 6, versets 9 à 10, « Ayant entrepris de faire le bien, donc ça veut dire qu'on a déjà commencé, ne nous laissons donc pas gagner par la fatigue ou le découragement. Si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au temps opportun les fruits de notre persévérance. Maintenant encore, le temps est favorable. Tant que nous en avons l'occasion, faisons donc du bien à tout le monde. » Et dans ce passage, Paul dit, le bien qu'on va faire va porter du fruit. C'est une certitude. Si on aime, ça aboutira à faire des disciples. Peut-être pas avec tout le monde, mais ça aboutira à faire des disciples. Pour finir, et en s'appuyant sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui, je vous donne quelques petites idées pour justement connecter avec les gens, pouvoir avoir cette première approche en ayant en tête de se dire, mon objectif c'est d'aimer, pour présenter l'Évangile, pour ensuite former un disciple. Donc au travers de l'amour, qui va être le premier pas, soyons intentionnels pour créer des relations, les entretenir, avec l'objectif d'un jour présenter l'Évangile. Et puis on peut trouver plein d'occasions dans le travail, dans les loisirs, dans le sport, dans les études. Et puis on peut lancer des discussions toutes simples en fait. On peut utiliser les fêtes chrétiennes à Pâques, même les non-chrétiens vont nous dire « Joyeuse Pâques ». À Noël, tout le monde dit « Joyeux Noël ». Et nous, on peut répondre « Joyeux Noël ». Ça veut dire quoi pour toi, Noël? Ou ça veut dire quoi pour toi, Pâques? Ça tombe bien, des fois, c'est eux qui lancent la discussion. Et peut-être, saisir cette perche et en parler. On peut aussi utiliser l'actualité et rebondir sur les sujets du moment. On peut aussi très facilement, le lundi matin, en général, hein, quand vous reprenez le boulot, 98% d'entre vous, on va vous poser la question, t'as fait quoi ce week-end? Je ne sais pas si c'est le cas, hein, mais très souvent c'est ça. Et on peut dire, ben, j'ai vu ma famille, j'étais avec mes parents, je suis sorti, et dimanche j'étais à l'église. Et peut-être la première fois on ne dit que ça. Et le lundi d'après on le redit. Peut-être la troisième fois on dit j'étais à l'église, et le sujet, c'était ça. Et petit à petit, on pose des pierres, et à un moment peut-être aussi on va dire, est-ce que tu veux que je t'en dise plus? Alors je vous le dis d'avance, hein, il y en a qui vont vous dire non. Mais ce n'est pas grave. Jésus ne nous a pas dit réussissez, il nous a dit faites. essayer. Et lui va intervenir. On peut aussi offrir des livres ou des CD. Alors les CD, ça se fait plus trop, mais peut-être sur une clé USB en disant « Tiens, j'écoute tel album en ce moment ou je lis tel livre. J'avais envie de te l'offrir. » D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup aimé le chapitre 4. Quand tu l'auras lu, tu pourras me dire quel chapitre tu as aimé ou quel chant tu as aimé. Et là, forcément, les gens se disent « Il va me poser la question à un moment. » Donc, je vais peut-être y jeter un coup d'œil. Alors, c'est pas garanti que ça marche, hein, mais ça peut être une occasion de partager. Et on revient au premier point qui est de prier. Prier pour être conduit vers des personnes. Et je crois que la première étape, c'est de se dire « Seigneur, avec qui je vais le faire ?» Et peut-être que quand vous allez demander à Dieu, que vous allez insister, peut-être un visage va vous apparaître, un prénom. Peut-être que Dieu va vous dire « C'est avec lui qu'il faut que tu fasses tes efforts d'évangélisation. » Et peut-être, juste à un moment, on peut dire « Je pense à telle personne. » Et puis Dieu va conduire les choses. Prions pour une ou deux personnes et ensuite, soyons intentionnels. Si on n'a pas trop de relations avec elles, commençons à les développer. Peut-être on les invite à manger, peut-être on s'organise pour avoir des rencontres régulières. Un repas en général, c'est très favorable à la discussion. On aime bien se retrouver, j'allais dire en France, mais je pense dans plein de pays, autour d'une table, et puis on peut discuter. Et réfléchissons aux questions qu'on pourrait poser. Et si un jour, à force d'aimer, d'être intentionnel, quelqu'un vous dit « Écoute, cette histoire dont tu me parles, j'aimerais la connaître plus en détail. » Des fois, on se sent difficilement équipé de se dire « Qu'est-ce que je fais ? Je lui parle d'abord de ses péchés, je lui parle de l'enfer, du paradis. » Des fois, on ne sait pas trop. Et il existe un excellent outil qui s'appelle la grande histoire. J'espère qu'il en reste sur le stand au fond, là-bas, qui est un très bon outil pour découvrir l'histoire, la grande histoire de Dieu pour l'humanité. Ça prend vraiment les grands carrefours de l'histoire biblique, avec du texte biblique et des questions. Pas de théologie, pas d'orientation, pas d'interprétation, du texte et des questions. Alors je pense que c'est un petit livret qu'on a besoin d'apprendre à utiliser. Et vous, dans votre église, vous avez beaucoup de chance. Parce qu'il y en a qui savent l'utiliser. Notamment Guillaume, qui l'utilise beaucoup, qui a déjà commencé à former plusieurs personnes. Alors je lui ai quand même posé la question tout à l'heure. J'ai dit, si j'en parle, tu seras prêt à accompagner des gens, à les former. Il m'a dit oui. Donc, allez le voir. Si vous pensez à quelqu'un à qui vous voulez présenter l'évangile, que vous voulez vous préparer, allez le voir avant qu'on vous dise oui. Parce que si quelqu'un vous dit oui, vous dites, oh là là, maintenant il faut que je vois tout le parcours avec Guillaume. Commencez par être prêt. Et quand on est prêt, Dieu envoie. Moi, pendant des années, j'ai essayé de faire de l'accompagnement avec des jeunes dans le cadre de colo que je faisais. Et ça allait nulle part. Parce qu'en fait, j'avais pas d'objectif. Le jour où je me suis dit, je prends des outils, je suis sérieux, je m'organise, j'ai eu l'impression que ça arrivait de tous les côtés. Autant avec des équipiers de JPC, des personnes qui avaient envie d'accompagner, qu'avec des non-chrétiens. Donc préparons-nous, moi je vous encourage vraiment à découvrir ce parcours, et une fois que les personnes nous diront « je veux savoir », vous serez équipés. Mais n'oublions pas que si nous acceptons la mission, aimer et annoncer, on ne pourra communiquer que ce qu'on a reçu. Jésus le dit en Jean 15, versets 4 et 5, et il démontre que la relation avec lui est vitale avant la mission. Demeurez en communion avec moi, je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul. Porter du fruit, c'est accomplir la mission, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas uni à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Je trouve que les mots sont forts, hein. Jésus est clair. Rien faire du tout. On pourrait faire tout ce qu'on veut comme action. Si on n'est pas uni à Jésus, on n'accomplira pas la mission, on ne portera pas de fruit. Et au verset 8, il dit... Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Autrement dit, l'identité du disciple, c'est de porter des fruits. Et la manière de le faire, c'est en étant uni à Christ. C'est ce que Jésus attend de nous. Et même si la mission est essentielle, la relation avec lui dans la prière, dans la louange, dans la lecture et l'étude de sa parole, dans l'écoute du Saint-Esprit, dans la communion fraternelle avec les frères et sœurs, sont absolument préalables à la mission, et c'est ce qui permettra de l'assurer avec efficacité. Alors, si nécessaire, peut-être, engageons-nous ou réengageons-nous dans notre relation stable et ferme avec Dieu. Bon, je vous encourage à avoir un plan de lecture, un temps défini dans la journée, une liste de sujets de prière, un moment organisé où je vais voir Dieu que pour lui. Pas pour m'équiper, pas pour savoir comment parler, pour le rencontrer et pour le connaître. Et puis prions pour qu'il nous rende sensibles aux besoins des gens, qu'il augmente notre amour et qu'on puisse saisir les occasions quand elles vont se présenter. Je vous laisse un dernier verset pour finir. 2 Corinthiens 5, verset 20. En Jésus-Christ, c'était Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui-même, ne tenant plus compte du péché des hommes. C'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargé de proclamer publiquement. Puisque nous en avons reçu la mission, nous parlons donc en ambassadeur du Christ. Par notre moyen, Dieu lui-même adresse son invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous les supplions. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Amen.